Vous écoutez RTL.
Alain Juppé, vous a écouté François Langlais avec circonspection. Il est maintenant interrogé par Olivier Mazerolles et bien entendu vous êtes de la partie. Olivier, c'est à vous.
Bonjour Alain Juppé.
Bonjour.
Pour établir le plein emploi, qui est donc votre objectif affiché, vous mettez le paquet sur l'entreprise, effectivement, baisse des charges, réforme du marché du travail, relance de l'investissement privé, mais il y a aussi beaucoup de Français qui sont dans la dèche, qui attendent une hausse du pouvoir d'achat, et à eux, vous leur dites, c'est pas pour tout de suite. Vous croyez qu'ils pourront avaler l'ensemble de la pilule ?
J'ai écouté M. Langlais, non pas avec circonspection, mais avec attention. Et je voudrais lui dire que le sucre, c'est quoi ? Le sucre, c'est le plein emploi. Je ne fais pas des promesses tous azimuts, je me concentre sur cet objectif prioritaire. Pourquoi ? Parce que le chômage aujourd'hui est le fléau qui mine la société française. D'abord, c'est pas d'espérance pour les jeunes. Ensuite, c'est des inégalités entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. C'est aussi le déséquilibre des comptes publics, parce que quand on a beaucoup de chômage, il y a plus de dépenses sociales et il y a moins de recettes. Donc voilà pourquoi je cible cet objectif. Il va paraître irréaliste. Qu'est-ce que c'est que le plein emploi ? Le plein emploi, c'est 5 à 6% de chômage, puisqu'il y a toujours des gens qui quittent un emploi pour en retrouver un autre. Or, qu'est-ce qui se passe ? Regardons un peu autour de nous, de temps en temps. Les deux premières puissances industrielles et économiques de l'Europe, l'Allemagne d'un côté et la Grande-Bretagne, qui sont nos voisins et qui sont dans des systèmes pas tellement différents du nôtre, sont au plein emploi.
Pardon ?
Elles sont au plein emploi.
Avec nous, des petits boulots qui souvent ne donnent pas la possibilité de vivre convenablement.
Monsieur Mazerolles, je vous pose la question, qu'est-ce qui vaut mieux ? Un petit boulot qui va peut-être permettre d'en trouver un grand ou le RSA ? Moi, je choisis le petit boulot d'abord et le bon boulot dans la foulée. Donc, je répète, la France n'est pas au plein emploi. Nous sommes à 10%, ça ne s'arrange pas. Les prévisions de la Commission européenne pour l'année prochaine, c'est que le chômage en France va passer de 10,2% à 10,1%. Et ça permet à M. Hollande de dire que ça va mieux.
Donc,
ça ne va pas mieux.
Donc, tout pour les entreprises dans un premier temps.
Attendez,
et les ménages ensuite.
Je veux dire pourquoi, parce qu'il faut toujours chercher le pourquoi des choses avant de se focaliser sur telle ou telle proposition. Pourquoi avons-nous échoué ? Parce que nos politiques reposent sur deux idées fausses. Premièrement, le partage du travail. Le travail est comme ça, un gâteau, on le coupe en petits morceaux pour le distribuer à plus de gens. Ça ne marche pas. Ça a été les 35 heures. Aujourd'hui, la CGT a trouvé une idée formidable, c'est les 32 heures. Et puis la deuxième fausse idée, c'est bien évidemment les emplois aidés, subventionnés par un État qui aujourd'hui n'a plus d'argent. Il faut sortir de cette logique et le fond de ma logique. Et le fond de ma proposition, c'est de dire ce sont les entreprises qui créent des emplois. Toutes les entreprises, le petit artisan, le commerçant, la TPE, la start-up, la PME. Et il faut donc remettre nos entreprises en situation de créer des emplois. C'est ça une vraie politique sociale. C'est tout faire pour le plein emploi.
Alors, en matière de fiscalité, vous voulez supprimer l'ISF et réduire l'impôt sur les revenus du capital. En gros, le diviser par deux pour les gros contribuables, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 40, vous proposez 20%. On comprend bien le raisonnement. Si on baisse les prélèvements sur le capital, on peut espérer que l'argent s'investisse dans les entreprises et donc dans l'emploi. Mais la réalité politique de tout ça, c'est que les seules baisses d'impôts sérieuses que vous envisagez pour les ménages, c'est pour les ménages fortunés, ceux qui ont un patrimoine de plus d'1,3 million, qui sont taxés aujourd'hui à l'ISF. Pour les classes populaires, ceinture. C'est une hausse de la TVA. Pardonnez-moi, mais d'autres que vous, un autre que vous, pour moins que ça, j'allais dire en termes fiscaux, a été appelé le président des riches.
Il s'appelait Nicolas Sarkozy.
D'abord, c'est pas tout à fait vrai. Je propose des mesures pour les classes moyennes, pour les familles moyennes qui ont été matraquées depuis 2012.
Le quotient familial.
Je propose de remonter le quotient familial, le plafond du consommation.
Supérieur.
Ça touche les classes moyennes.
Supérieur.
Pour trois enfants, par exemple, c'est un avantage fiscal. C'est une baisse des impôts de 4 000 euros par an en moyenne.
Là, vous
deuxièmement,
cas de
je propose.
Le plus favorable, hein.
Deuxièmement, permettez-moi de ne pas prendre le plus défavorable pour.
Peut-être un cas de figure moyen.
Expliquer.
Ça serait le plus juste.
Deuxièmement, je propose aussi de relibérer les emplois à domicile, les emplois de service à domicile. C'est une grosse bêtise qui a été faite depuis 2012.
C'est pas pour les classes populaires.
Et vous savez, il y a beaucoup de familles moyennes qui... Je voudrais quand même souligner que les redevables les plus taxés, ce ne sont pas les classes les plus populaires, il faut quand même le rappeler. Hein. Donc il faut cibler les impôts. Je reviens sur ce que vous avez dit sur l'ISF.
Oui.
J'ai parfaitement conscience que cette mesure est impopulaire. Et c'est une remarque plus générale que je voudrais faire à ce que vous avez dit. Bien sûr que ce que je présente, c'est pas du miel... même s'il y a du sucre, je l'ai dit tout à l'heure, s'agissant de l'emploi. Mais deux choses l'une, est-ce que les Français sont prêts à entendre la vérité ou pas ? Moi, je ne veux pas être élu en racontant des histoires. Tout le monde est bien conscient qu'on ne peut pas continuer comme ça aujourd'hui, que la France est en train de décrocher, que notre économie ne repart pas, que l'investissement est au point mort. Est-ce qu'on se résigne ou est-ce qu'on change ? Moi, je propose
ça,
de changer, même si c'est difficile. Je reviens sur l'ISF et sur la taxation du capital. Nous avons tous dit qu'il fallait taxer les revenus du capital comme ceux du travail. C'est une ineptie.
Y compris à droite, d'ailleurs.
Oui. je veux bien le reconnaître.
C'était prenons, de la politique de Nicolas Sarkozy.
Prenons les chiffres, monsieur Langlais, vous les connaissez mieux que moi. Quand une entreprise distribue 100 euros de dividendes après avoir payé tous ses impôts, qu'est-ce qui reste pour l'actionnaire, je parle de mémoire, je crois ne pas me tromper. En Allemagne, 51 euros. En Grande-Bretagne, 39 euros. En France, 36. Et après le paiement de l'ISF, 3 euros. Eh bien, l'argent s'en va.
Pourquoi ?
Il y a des Français qui ont de l'argent. Il y a des Français pauvres.
Dire, pardon, monsieur Juppé, mais la gauche a gagné son élection en disant qu'il faut taxer le capital tout autant que le revenu du travail.
Et on voit la situation. On voit la situation aujourd'hui. Alors, si vous prenez l'exemple de la gauche, voilà exactement ce que je ne veux pas faire. Monsieur Hollande a dit sus à la finance. Moi, je dis mon ennemi, c'est le chômage. Donc, je ne veux pas rencontrer des histoires aux Français. Si aujourd'hui, nous sommes dans une crise politique majeure, c'est parce qu'on a fait prendre des vessies pour des lanternes aux Français en 2012 et qu'aujourd'hui, on est obligé de faire une politique qui va exactement à l'encontre de ce qu'on avait promis. Je prends le risque de dire la vérité parce que c'est la seule façon ensuite de réussir les réformes. Si je suis élu président de la République, j'aurai reçu mandat du peuple français pour faire ce que je propose. Et je pense que donc les réformes pourront avancer.
Est-ce que vous n'auriez pas pu justement garder un ISF sur l'immobilier, c'est-à-dire sortir les entreprises pour éviter l'inconvénient que vous évoquez, pour autant garder une certaine justice sociale. Au fond, le fondement de l'impôt, c'est la progressivité, c'est ce qui légitime évidemment l'action de l'État, mais aussi une forme de redistribution.
Aujourd'hui, le prélèvement maximum, impôt sur le revenu, cotisation sociale, pour ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est 68%. Voilà. Alors, quand on parle de justice sociale, n'oublions pas aussi cette taxation. Et puis, il faut de temps en temps inventer, monsieur Langlais, des mesures simples. Si on commence à compliquer les choses, là on garde ça, mais pas ça, etc., il faut des signaux forts. Je le répète, quand les riches s'en vont de France, c'est l'ensemble des Français qui en pâtissent, parce que nos entreprises ont besoin d'investissements et de fonds propres. Qui va leur prêter de l'argent aujourd'hui ? C'est pas les banques. On leur a mis tellement de règles de prudence qu'elles ne prêtent plus d'argent. C'est pas l'État, c'est pas son rôle. Il faut que ce soit donc ceux qui ont de l'argent qui puissent l'investir dans nos entreprises pour leur permettre de se développer et de créer des emplois. Vous connaissez la phrase de Schröder, bien connue, l'investissement d'aujourd'hui, c'est l'emploi de demain.
Schmitt, pardon. Il y a un sujet dont vous ne parlez pas dans votre livre, c'est le salaire des patrons. Il y a peu, Carlos Ghosn, le patron de Renault, a déclenché une polémique parce qu'il s'est fait attribuer un salaire de 15 millions d'euros par an en passant outre l'avis des actionnaires de l'entreprise qui étaient contre le versement de cette somme. Est-ce que vous pensez qu'il faut réglementer, encadrer le salaire des patrons pour éviter les dérives ou bien au contraire qu'il faut laisser les dirigeants s'organiser seuls comme ils le demandent eux-mêmes?
Je n'ai pas parlé dans mon livre, mais j'en ai parlé dans mon interview aux Échos qui est paru hier, où je dis que je suis profondément choqué par ces comportements qui ne sont pas éthiques. Alors, est-ce qu'il faut mettre un plafond fixé dans la loi ? On rappelle partout que nous sommes en situation de concurrence, dans un monde mondialisé, donc il faut aussi en tenir compte. Je pense qu'il faut faire appel au sens moral et aussi aux responsabilités des conseils d'administration. Il n'est pas normal que, effectivement, quand un conseil d'administration dit non, on puisse passer outre à sa décision. Il y a des lois pour les emplois publics, pour les dirigeants des entreprises publiques, celles-là, il faut naturellement les maintenir. Il y a aussi, la pression de l'opinion qui peut compter là-dessus pour faire cesser un certain nombre de comportements qui sont inacceptables par les temps qui courent.
La pression de l'opinion, justement, votre livre, vous le démarrez en disant « Je voudrais dédier ce livre aux jeunes de France, à tous nos jeunes ». Et vous proposez, notamment, la création de CDI pour lesquels les motifs de licenciement seraient fixés à l'avance, et vous voulez rétablir le plafonnement des indemnités de licenciement, qui est précisément l'une des clauses de la loi El Khomri d'origine, contre laquelle les jeunes sont descendus dans la rue. Comment pouvez-vous espérer les convaincre ?
Eh bien, si je n'arrive pas à les convaincre, je ne serai pas élu, monsieur Mazerolle. C'est très clair, et je vais essayer, parce que moi, je ne me résigne pas à ce que des idées fausses continuent à circuler. L'idée selon laquelle, c'est en durcissant de plus en plus les conditions de licenciement quand une entreprise a des difficultés économiques et qu'elle doit ajuster ses effectifs, qu'on va créer de l'emploi, est une idée fausse. Et je voudrais en convaincre les jeunes. Je passe mon temps, ce soir, je serai à Rouen en train de discuter avec eux, je passe mon temps à délivrer ce message. Au contraire, si on veut que les entreprises cessent de bloquer leurs embauches, il faut les rassurer sur ce qui peut se passer dans l'hypothèse où elles ont des difficultés. C'était la philosophie initiale de la loi El Khomri, qui était de dire dans la loi, voilà pour quelles raisons une entreprise peut licencier de façon économique, enfin pour des raisons économiques, par exemple quand son chiffre d'affaires baisse pendant 2 ou 3 trimestres successifs. C'est ça qui va libérer l'embauche. Combien de fois j'ai entendu
des patrons et parfois des patrons de petites start-up ou de petites TPE me dire « Nous pourrions embaucher, mais nous ne le faisons pas. Parce que si demain nous perdons une commande ou notre chiffre d'affaires baisse, c'est la croix et la bannière et nous ne nous en sortons pas. » Ce que je propose aux jeunes, moi aussi, on l'a parlé, M. Langlais l'a dit tout à l'heure, c'est très important dans mon approche et dans mon livre, c'est une meilleure formation. Aujourd'hui, nous laissons des cohortes de jeunes se fourvoyer dans des filières où ils n'ont aucun espoir d'avenir. Il faut donc...
Eh bien, vous dire, attention à la sélection.
Oui, il faut de la sélection, monsieur Mazerolle. Voyez votre réaction, un peu passéiste, permettez-moi. La sélection, elle existe.
C'est mon âge.
C'est le mien. Alors voilà, on peut être moderne aussi à notre âge. Voilà, vous le voyez. Hein. La sélection, aujourd'hui, elle existe. C'est la sélection par l'échec. Hein. Prenez un titulaire de bac pro. Il y en a quelques-uns qui vont essayer de faire une licence. Dans 99% des cas, ils échouent. Ça, c'est de la sélection par l'échec. Et moi, je dis, on n'a pas le droit de laisser faire ça. Il faut faire une orientation suffisamment sélective pour que ces jeunes ils puissent être orientés vers un BTS ou un DUT qui leur permettra ensuite de dérouler leur carrière. La remise à l'honneur de l'apprentissage, on en parle. Et puis, on fait le contraire. Le nombre d'apprentis a diminué au cours des années passées. C'est une des réponses que je propose à nos jeunes. Je vais souvent dans les CFA à la rencontre. Et il y en a un jour qui m'a dit dans un CFA, quand j'ai dit à mes parents que j'allais entrer au CFA de chaudronnerie de Saint-Dizier, on m'a dit « Ah, ils te mettent dans la poubelle ? » Il faut casser cette image. Il n'y a pas de saut métier, il y a des filières, au contraire, où il y a du boulot. Et c'est vers cela qu'il faut orienter nos jeunes.
Il y a aussi des gens plus âgés, ceux qui vont atteindre l'âge de la retraite. Vous dites qu'il faut revenir à la retraite à 65 ans. Et avant que vous n'arriviez tout à l'heure, il y avait un auditeur qui disait bah, « C'est bien gentil, sauf qu'arrivé à un certain âge, on ne veut plus de nous dans les entreprises, donc si on recule l'âge de la retraite à 65 ans, bah, on sera au chômage plus longtemps. »
J'ai entendu cet auditeur, et je comprends sa réaction. Ce qui me frappe aussi, c'est que nous vivons dans un monde où nous sommes totalement recroquevillés sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Il y a beaucoup de pays qui ont mis l'âge de la retraite à 65 ans, voire à 67 ans. Or, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que le taux d'activité des seniors est supérieur à ce qu'il est en France. Dans ces pays-là...
Par quel miracle ?
Parce que l'économie est dynamique, l'économie n'est pas statique. On raisonne en permanence comme s'il y avait un gâteau fixe et puis voilà, on se le partage.
Mais il y a une période de transition quand même pendant laquelle les gens souffrent. Parce que justement, c'est ce qui se passe en ce moment. La retraite a été retardée et il n'y a pas de travail. Du coup, on est toujours
mal. Parce qu'on a une politique qui ne permet pas de créer des emplois. Moi, ma politique consiste...
De toute façon, vous avez une période de transition.
J'en ai bien conscience. Je n'ai pas dit que par un coup de baguette magique, dans les 100 jours qui suivront mon élection, tout va changer. Il faut simplement rétablir la confiance. Et je reviens à ce que vous disiez. Un autre exemple, là aussi. D'éclairage de ce qui se passe à l'étranger. Dans tous les pays où la retraite est à 65 ou à 67 ans, le chômage des jeunes est inférieur au nôtre. Je voudrais quand même vous citer un chiffre qui est terrifiant. Chômage des jeunes en France, 24%. En Allemagne, 7%. 24%, 7%. Je reviens sur l'apprentissage. Nombre de jeunes à l'apprentissage en Allemagne, 16%. En France, 5%.
Vous dites quoi, qu'en fait, que l'emploi crée l'emploi.
Oui, bien sûr, le dynamisme économique crée l'emploi. Des entreprises qui se développent, ça crée de l'emploi. Il faut augmenter le revenu. À force de travailler de moins en moins, en France, on travaille 1661 heures par an, en Allemagne, 1847 heures. Quand on travaille moins, on crée moins de richesses. Quand on crée moins de richesses, il y a moins de pouvoir d'achat, donc il y a moins d'opportunités d'emploi. C'est dans cette optique-là qu'il faut se mettre. Et je reviens à mon dialogue avec les Français. Moi, j'attache beaucoup d'importance aux 100 jours. Avant l'élection présidentielle.
Vous allez tout leur
dire. C'est la campagne présidentielle. Est-ce qu'on est capable, oui ou non, d'avoir de vrais débats avec les jeunes sur l'embauche, avec les seniors, sur l'âge de la retraite ?
Alors,
c'est là que tout va se jouer.
Le débat aux fonctionnaires, 5 400 000 fonctionnaires en France. Vous allez leur dire rétablissement de 2 jours de carence, suppression de 250 à 300 000 postes. La retraite, donc, à 65 ans pour tout le monde, le retour aux 39 heures pour tout le monde, sauf dans le cas où des entreprises auraient un accord différent. Mais en tout cas, 39 heures pour les fonctionnaires. La retraite à 65 ans pour tout le monde, y compris les fonctionnaires et les régimes spéciaux. Est-ce que vous ne croyez pas que un certain nombre de gens vont se dire « Ah, le père Fouettard de 1995 est de retour ».
On m'a beaucoup reproché, M. Mazerolle, de ne pas avoir réussi la réforme des régimes spéciaux de retraite en 1995. Personne ne l'a fait depuis. Alors on arrête tout ? On se résigne ? On ne fait plus rien ? Non, moi je ne me résigne pas. J'ai du respect pour les fonctionnaires. Nous avons la chance d'avoir en France une bonne fonction publique qui est compétente et qui est surtout honnête. Et c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas, contrairement à certaines propositions qui sont sur la table aujourd'hui, remettre en cause le statut de la fonction publique. Mais il faut aussi que les fonctionnaires fassent des efforts en contrepartie. Quand vous me dites 5 400 000 fonctionnaires, 250 000 suppressions, ça fait 4,5% d'emplois sur 5 ans. Hein, n'importe quelle entreprise qui se restructure va bien au-delà de cela.
En quoi vous seriez plus crédible, M. Juppé, pour mettre tout ça en œuvre plutôt que Nicolas Sarkozy, François Fillon ou Bruno Le Maire ?
Réponse le jour de l'élection présidentielle, M. Mazerolle. C'est les Français qui répondront, c'est pas moi ni vous.
Vous restez avec nous, Alain Juppé. Contrairement à ce que dit François Hollande, ça ne va pas mieux, avez-vous dit à Olivier Mazerolle et à François Langlais. Et mon ennemi, ce n'est pas la finance, mais bien le chômage.